scène, c'est quand même très net. Ce n'est pas un droit, c'est sûr. C'est le droit de l'amitié, dans une totale liberté. Ce n'est pas Pierre qui est tout proche de Jésus, c'est Jean. Et là, il y a, dans l'ordre de la sagesse de Dieu, un ordre voulu, explicite, pour montrer le lien très particulier de Jean avec l'Eucharistie. Déjà, ce lien, on peut le découvrir avec le chapitre 6. Aujourd'hui, il est bon de relire le chapitre 6 de Saint Jean, puisque c'est la grande préparation de Jésus lui-même pour le mystère de l'Eucharistie. Il faut tout le temps revenir au chapitre 6 si on veut avoir une théologie de l'Eucharistie du pain de vie dans la lumière du Père. C'est le Père qui donne le pain. Cette grande affirmation si forte, c'est le Père qui donne le pain. Et Jésus, en tant qu'il donne le pain, son travail, le fruit du travail du Père, c'est donner le pain à la maison, donner le pain à sa famille. Et le travail de Jésus, c'est le labeur de la croix. C'est à travers ce labeur de la croix où lui-même est offert que Jésus donne le pain. Mais ce qui est très remarquable, c'est de voir la place de Jean auprès du cœur de Jésus au moment de l'institution de l'Eucharistie. Jésus a voulu cette proximité personnelle de joie que Jésus réalise pour Jean, pour bien nous faire comprendre ce qu'est le disciple bien-aimé. Au chapitre 6, c'est Pierre qui parle au nom des douze. Quand Jésus interroge, quand Jésus voit que des quantités de disciples s'en vont, Jésus a connu cette épreuve de voir une quantité de disciples qui partent. Au moment où il proclame l'ultime pointe de sa doctrine, mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. La réponse de beaucoup, cette parole est trop dure. Et Jésus n'a rien diminué à la force de cette parole en face de ceux qui partaient. Jésus n'a pas voulu les rattraper en disant « Mais vous verrez bien, petit à petit, vous comprendrez. » Non. Il était très net. Je crois que c'est très important pour nous. On n'a pas le droit de diminuer la force de la doctrine du monde d'aujourd'hui pour s'adapter. Non. Il y a toujours cette exigence de la vérité. Et devant tous ceux qui partent, Jésus redonne aux apôtres leur liberté. Et c'est très beau. On redonne la liberté après quelques années, 3 ans, 4 ans. Avant les vœux, vous pouvez partir. Vous êtes libre. Et vous devez choisir en toute liberté. C'est très grand ça, et c'est très beau. Sans vouloir retenir. Vous êtes magnanime comme le Christ. Parce qu'on ne peut être du Christ que dans une totale liberté. Autrement, on ne peut pas être du Christ. Pierre qui prend la parole, il y a la scène, la réalisation de la promesse, c'est Jean qui est auprès de Jésus, c'est pas lui qui a choisi la place, il n'a pas voulu faire comme sa mère. est sûrement très lié à sa mère, selon la chair et le sang. Mais il a voulu faire quelque chose de beaucoup plus divin, en laissant Jésus le choisir. Et c'est Jésus qui l'a choisi, pour qu'il soit tout proche. Il y a là donc un choix du Christ très significatif, à la différence par rapport à Pierre. Geste, et c'est assez extraordinaire. c'est la discrétion de Jésus. Nomme pas le traître. Si l'indique sa présence, c'est la présence du traître qui est indiquée par le geste qu'il fera, qui est quelque chose qui manifeste qui il est. Je crois que nous devons demander à Saint Jean aujourd'hui, voyez, ce privilège, connaître Jésus dans l'Eucharistie. D'amour. près du corps de Jésus. Et le lieu de Jean à la croix, debout, au pied de la croix, près de Marie, près de Jésus. Et nous vivrons ensuite le mystère du sépulcre. Et alors là encore, situation spéciale de Jean. C'est étonnant. Tous ces grands mystères, on doit les vivre, tous très proches de Jean. On prenne notre Père et l'aimer comme notre Père. Situation très particulière de Jean parce qu'il l'a pris chez lui. C'est dit. Donc à partir de ce moment, Marie vient habiter chez Jean. Merveilleux. Le trésor que Dieu lui donne. Marie vient habiter chez Jean. Il l'a pris chez lui. Ça ne m'étonnerait pas du tout que durant ce samedi saint, le premier samedi saint, Pierre soit venu se réfugier chez Jean. Jean vit avec Marie, il l'a pris chez lui. Et Pierre vient frapper à la porte. Pierre n'a plus de lieu depuis le reniement. Il est un vagabond. Parce que son seul lieu, peut-être que le cœur de Jésus. Et ayant renié, il n'a plus de lieu. Ça arrive pour nous aussi de connaître ces situations, vous savez bien. Quand on a résisté un peu au Saint-Esprit, les petits coups de chiquenaude sur la paupière de la colombe, faut jamais oublier, et si notre main est puissante, les coups de chiquenaude sont assez puissants, et quand vous donnez un petit coup de chiquenaude sur la paupière de la colombe, vous ne la tuez pas. Mais la petite colombe s'évanouit. Alors transposez symboliquement. Pierre est errant. Il a donné un gros coup de chiquenaude. Tu vois, avec un peu son épée. Et sa générosité. Le Saint-Esprit le connaît bien, de sorte que le Saint-Esprit ne s'oppose, n'a aucune rancœur contre Pierre. Il l'aime d'autant plus que Pierre connaîtra sa fragilité et sa pauvreté. Je crois que Pierre n'a pas un seul lieu où il peut aller. Et c'est inscrit dans l'évangile de Saint Jean, si on sait lire. Vous savez bien, Marie de Magdala se précipite d'avoir un tout petit peu le sens de la psychologie de Marie de Magdala pour comprendre que Marie de Magdala n'a aucune envie de retrouver Pierre. Parce que Marie de Magdala, quand elle est au pied de la croix, elle admire Jean. Et dans le fond de son cœur, Marie Magdala, vous savez bien, elle pleure de trop pour être absolument limpide. Alors, il y a en elle ce jugement. Elle est tellement passionnée, elle ne peut pas tolérer que Pierre soit pas là. Elle est là, et Pierre n'est pas là. Sa place d'être là. Il devait être là. Et sa première intention, c'était d'être là. Avec Jean.
un accident de parcours. Terrible. Son intention s'est transformée en velléité. Devant le ricanement de la servante, il faut peu de choses pour déraper. Très peu de choses. Le ricanement de la servante. Il s'est répété, tu restes plusieurs fois. Trois fois. Marie Magdalena n'a aucune envie de retrouver Pierre. Elle n'a qu'un seul désir, c'est de retrouver Jean. Et à la place de trouver Jean, elle trouve Pierre. Ça, c'est des grâces particulières de la rédemption. Et de la résurrection, je veux dire. C'est des grâces très particulières. Retrouver le contact avec Pierre, c'est quand même pas mal. Hein. Quand on s'est mis à critiquer Pierre, quand on s'est mis à le juger, quand on s'est mis à dire, mais c'est ce qu'on doit demander, vous voyez, on doit demander la grâce. Dans ce mystère de la résurrection, que beaucoup retrouvent Pierre. Sans doute qu'ils ont besoin d'être un tout petit peu assommés pour retrouver Pierre, qu'ils soient en face du tombeau vide. Terrible expérience. Quand on a observant dans l'Église, les plus enracinés dans la tradition. Pas ça, il y a tant de la loi doit disparaître. Alors là, vraiment, eux, mais ils s'y attachent. Alors, l'expérience du tombeau vide, c'est terrible l'expérience du tombeau vide. Quand on a cette petite ambition, cette petite coquetterie liturgique, les observants numéro un, les observants de l'observance, mais ça au carré, on veut passer devant tous les autres, et dans ce domaine-là, on ne craint rien. De Jésus, c'est comme Marie de Magdala trouve Pierre croyant trouver Jean. Et vous voyez, c'est très beau. Elle découvre Pierre croyant trouver Jean. C'est par Jean qu'elle redécouvre Pierre grâce au tombeau vide. Il y a beaucoup d'analogies faciles à comprendre. Il faut nous aider. De ce mystère du samedi saint du sépulcre. Comment a-t-il vécu ce mystère près de Marie, accueillant Pierre, accueillant Marie de Magdala? Ça, c'est extraordinaire, ça. Et Pierre et Jean qui va au sépulcre à la suite de Marie de Magdala. Possible. La course du matin. Et là encore, voyez, la place de Jean au sépulcre. Soulignez cette place particulière de Jean dans ces mystères du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi saint et du dimanche matin. Priorité de Jean. Priorité dans l'ordre de l'amour. Pas du tout une priorité dans l'ordre de l'autorité, non. Une priorité dans l'ordre de l'amour. Mais une priorité. n'exclut pas Pierre, même après le reniement, qu'au contraire, elle est là pour le porter, pour cacher sa faute, pour cacher sa honte. Il respecte Pierre jusqu'au sépulcre, laissant passer en premier lieu. Tout ça doit être pour nous comme un petit cheminement merveilleux qui nous fait comprendre ce qu'on doit être dans l'Église, ce qu'il faut vivre dans l'Église, comme l'Esprit Saint réclame en premier lieu. Si nous voulons que Jean soit notre Père, si nous désirons être vraiment des disciples de Jean, pas seulement dénominatifs, mais réellement, notre grâce nous lie à Saint Jean. Alors il faut que nous entrions pleinement durant ces jours dans ce grand mystère d'amour. Continuons de regarder le grand mystère du sépulcre. J'essayais hier avec vous d'entrer dans cette prière de Jésus qui est si forte. Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Je crois qu'il y a deux choses à être très attentif à saisir. Nous avons essayé hier, par une approche successive, du symbolisme de la coupe. Parce que c'est un symbole. Donc si c'est un symbole, c'est pour révéler, cacher, comme toujours. Pour que ceux qui veulent comprennent, comprennent. Et Jésus ne dit pas ouvertement. Et on comprend, c'est un très grand secret. Puisque c'est au cœur de la lutte. Il y a l'agonie extérieure, il y a l'agonie intérieure. Vous savez bien que sous le poids de la souffrance, certains secrets peuvent se dire et ne se disent pas autrement. Je vous renvoie toujours à ce grand, grand passage de l'Ancien Testament qui est si étonnant. Notre Père Jacob, sous le poids de la souffrance, révèle le grand secret de son cœur. Son amour pour le Benjamin. Son amour unique pour Joseph et le Benjamin. Et il dit ça devant les 10. Les 10 frères aînés. Comme s'il n'était rien. À côté des 2 derniers. Les enfants de Rachel. Les enfants de Rachel, ce lien si fort jusqu'à la fin de sa vie, de ce grand vieillard qui aime Rachel, une fidélité et une tendresse d'amour. C'est le grand secret de Jacob, ça. Le grand secret de Jacob, c'est d'être un époux, dans le sens très très fort. Le grand secret d'Abraham, c'est d'être père. C'est pas l'époux secret d'Abraham. Je crois pas du tout. Maintenant, avec Sarah, c'est difficile. Tandis que Rachel, c'est différent. Tout à fait autre chose. Et le secret de Jacob, c'est l'époux. Le secret d'Isaac, c'est d'être fils. Devant une souffrance imminente, devant une séparation, et l'intendant du pharaon pour avoir du froment et ne pas mourir de faim. Il y a une condition sine qua non absolue. Il faut que le Benjamin soit là. Joseph savait très bien ce qu'il demandait. Quitter Benjamin pour le vieux Jacob, c'est la chose la plus dure. On lui arrache la perle de son cœur. On lui arrache son grand trésor. Et devant cette séparation imminente, le vieux Jacob livre son secret.
Thank you.
j'aime tellement Marie n'est pas dans le mystère de l'agonie, sous le poids de la souffrance, de l'iniquité, du péché du monde, n'est pas ce désir de prendre tout sur lui et d'épargner sa mère et d'épargner Jean, d'épargner Pierre, de nous épargner. Pour être le seul à souffrir. Ça, c'est la grandeur d'âme de Jésus. Et je crois que c'est cela qui nous montre la signification de cette prière. Oui, c'est une agonie de saint. C'est l'agonie du saint. C'est l'agonie de celui qui est le fils bien-aimé du Père et le fils bien-aimé de Marie. C'est ça qui est le plus précieux dans le cœur de Jésus. Filiation à l'égard du Père et cette filiation à l'égard de Marie. Et dans cette souffrance, au moment où tout le reste est abandonné, il ne reste plus que ça. Dans le cœur de Jésus, il y a cette double filiation. Et voilà que cette double filiation a des exigences inverses. Alors on comprend.
apostolique. Ce lien reprend, j'allais dire, une force naturelle, l'appétit naturel du fils à l'égard de sa mère. Une intensité à ce moment-là dont nous n'avons pas idée. Ce psychanalyste qui veut être plus freudien que Freud. Je ne sais pas si bien encore, parce que quand j'étais à Fribourg, il était à Neuchâtel. Il faisait beaucoup parler de lui. Il a écrit des articles qui sont remarquables de génie démoniaque dans le sens de Freud. Puisqu'il disait, je veux être plus freudien que Freud, un royaliste veut être plus royaliste que le roi. C'est l'expression qu'il donnait comme analogie. Et donc vous voyez bien ce qu'il voulait dire. Y être plus freudien que Freud, c'est tout simplement Freud a tué l'autorité du père. Moi je veux tuer l'amour de la mère pour son fils. Ou plus exactement, tuer, non pas la mère, mais tuer le lien du fils à l'égard de la mère. C'était ça son intention. En montrant que ce lien du fils à l'égard de la mère est mauvais. Parce qu'il limite l'autonomie du nouveau-né. Il limite l'autonomie de l'homme. Il faut donc supprimer cela en séparant le plus vite possible l'enfant de sa mère. Parce que l'amour de la mère pour l'enfant est toujours un amour captatif, un amour qui envoûte et qui empêche le tout petit de se libérer. Et que pour lui, tout ce qui peut ensuite montrer les complexes d'aliénation, de culpabilité et d'angoisse proviennent de ça. Alors il donnait tout son argent qu'il gagnait en psychanalyste. À Genève, un institut qui prolongerait ses recherches. C'est assez étonnant, ça. Alors, quand vous regardez le cœur de Jésus à l'agonie, Jésus a vécu, je dis bien, il a vécu d'une manière très intense et nouvelle dans son agonie. Lucidité unique en profondeur qui fait que ce lien avec Marie apparaît dans toute sa force, dans toute sa plénitude. Et c'est ce lien avec Marie qui est voulu par Dieu, voulu par le Père, qui fait Jésus, c'est pour sa mère. Il a voulu épargner sa mère, qu'elle demeure totalement consacrée au Père. Dans sa virginité, le petit signe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas cela? Épargner sa mère de ce poids d'iniquité du monde. côté de son cœur a toujours été toujours plus loin dans le don total d'elle-même. L'épargner pour que son amour demeure dans cette limpidité absolue de l'Immaculée. Et en même temps, cette volonté du Père qui dépasse tout. Je crois que c'est là où il y a agonie. Quand on est en face de deux amours très purs. Et alors ça va très loin. Parce que c'est tout le mystère des liens entre la grâce chrétienne dans sa source, qui est la croix, et la nature humaine dans toute sa limpidité. Et sa pureté d'image de Dieu. Oui, nous retrouvons le mystère de la souffrance liée à l'amour. Il faut que Jésus, dans son agonie, opte pour que cette souffrance vienne briser le cœur de Marie. Absolument pur, qui n'a pas besoin de purification, tellement il est pur. Donc la souffrance n'est pas seulement pour purifier, c'est pour permettre au cœur humain d'aimer plus et d'aller plus loin dans l'ordre de l'amour, c'est-à-dire d'être radicalement purifié, mais d'une purification qu'il ne s'agit plus de purification morale, j'allais dire une purification métaphysique. D'être radicalement purifié pour qu'il soit capable d'aimer divinement, d'aimer à la manière du Père, d'aimer selon la jalousie du Père, donc d'aimer en offrant tout, en offrant ce qui est le plus légitime, ce qui serait le plus légitime de demander, en offrant tout. En acceptant de ne plus rien savoir, de ne plus rien connaître. Je crois que c'est cela, la prière de l'agonie. Jésus a opté en s'en remettant totalement au Père. Il aurait pu lui-même faire le discernement. Il a voulu montrer son cœur d'homme. Il a voulu nous révéler son cœur d'homme. Il a voulu nous révéler la fragilité de son cœur d'homme. Il a voulu nous faire comprendre qu'en tant qu'homme, il ne pouvait pas lui-même discerner et qu'il s'en remettait totalement au bon plaisir du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis toutes mes complaisances. Et le Père met toutes ses complaisances en Jésus. Parce que justement Jésus fait passer devant la volonté du Père. Et que c'est cette volonté du Père qui lève au-dessus de tout. Faut, je crois, entrer jusque-là pour saisir cette lutte. Dans son